Cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Dick Annegarn. Ce soir, le cercle poétique.
Dick Annegarn, bonsoir.
Bonsoir.
Dick Annegarn, vous êtes auteur, compositeur. Certains vous reconnaîtront immédiatement à votre timbre. Mais puisque nous passons une semaine à nous entretenir cette présentation, vous, le chanteur hollandais devenu gascon d'adoption, l'auteur de chansons comme Bruxelles, Père Ubu, Mireille ou encore Velova, attaché au Verbe et responsable d'une œuvre de 22 albums à ce jour, nous sommes dans la Maison de la Poésie à Paris. C'est vous qui avez choisi le lieu de ce rendez-vous. Nous sommes entourés de livres. Alors pourquoi ce lieu? Puisque d'habitude, on va au domicile de la personne qu'on rencontre. Mais ce n'était pas possible, il fallait se voir à Paris. Alors pourquoi la Maison de la Poésie?
Parce que j'ai toujours pensé que la poésie pouvait lier les gens. La poésie devrait être populaire. Et je venais avant, la Maison de la Poésie n'était pas ici, mais c'était le Trou des Halles. Qui est quand même, c'est les anciens grossistes, c'est le cœur de Paris. Et je trouvais que la Maison de la Poésie était aussi... La poésie, c'est le cœur de Paris aussi. Les poulbeaux sont des petits poètes qui pissent. Hein, donc ce côté populaire, la poésie, je l'assimilais bien au Trou des Halles. Et à ce côté, je dis bien, marché. Bon, maintenant, je me rends compte que Maison de la Poésie, c'est un peu élitiste, c'est encore la poésie à l'ancienne, on va dire. C'est la poésie de barbu, de poète éthéré dans leur alcôve, quoi. Donc c'est, on va dire, c'est la maison de l'histoire de la poésie que j'ai choisi.
Et par exemple, quelle est l'histoire de votre rapport à la poésie, Dick Annegarn? Parce que la poésie, pas classique, mais en tout cas partagée par beaucoup, y compris les universitaires, elle vous est pas indifférente. Vous avez chanté Rimbaud, par exemple. Hein, je me souviens de L'Éternité, où il y avait un des poèmes des Vers nouveaux et chansons. Voilà, adapter la poésie à son chant, j'imagine que c'est un exercice à part quand on est d'habitude son propre parolier. Dick Annegarn.
Ouais, Rimbaud écrivait avec ses pieds. Et d'ailleurs, il a perdu une jambe avec ça. Sa jambe était gangrénée, parce qu'on dit le poète au semelles de vent. Non, c'était le poète au semelles de plomb. Hein, donc, il a tellement marché, marché qu'il en est devenu crédible. Moi, je l'ai découvert à Djibouti, à Addis Abeba aussi. Et donc, ça me l'a rendu crédible, on va dire. Maintenant, j'ai connu l'école européenne. C'est la seule école que j'ai connue. J'ai que mon bac. Donc, moi, la poésie, je l'ai apprise dans des cours de littérature comparée. On comparait le romantisme, on comparait la Renaissance à travers les différents pays d'Europe. C'est très intéressant. Surtout qu'on a été, comment dire, enseigné par des professeurs assez modernes qui nous faisaient comprendre le romantisme, par exemple, c'était le unpeace, c'était la non-paix. Et notre prof nous expliquait qu'en tant que hippie, on était très romantique. Ça nous vexait énormément, parce que pour nous, les romantiques, c'était, Schiller, c'était des poètes un peu difficiles à comprendre, très amoureux d'une femme qui n'existe pas, tout ça. Enfin, c'était une poésie auquel on s'assimilait pas. Pour nous, c'était Dylan, c'était, Rob Grier. En tout cas, la poésie, c'était nécessairement incompréhensible, mais autrement incompréhensible que les romantiques qu'on nous enseignait. Donc, on l'assimilait pas. Par contre, de nous expliquer que les romantiques, c'est des gens qui fuient dans le temps, qui fuient dans l'avenir, qui fuient dans des pays imaginaires, ça nous parlait. Et là, on redevenait hippie, une nouvelle culture. Et donc la poésie, Lyne, moi je m'intéressais à Ronald Lyne, qui était un antipsychiatre, qui faisait des poèmes « Jim dit à Gilles que Gilles dit à Jules que Jim dit pas que Jules sait que Jim dit ». Bon, espèce de poésie absurde. Ça me parlait. La poésie pop, la poésie rock me parlait. Sauf que c'était une poésie qui était à peine écrite. Il y avait peu de livres sur le rock ou sur la culture pop. Oui,
je pense à Ginsberg, quand même, par exemple.
Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Gissing, Ginsberg.
Ce qu'on a appelé les poètes beats.
Oui, les poètes beats. Mais franchement, quand on écoute ma chanson Bruxelles, il faut s'imaginer que j'étais déjà fâché un peu avec la nostalgie beat, avec la nostalgie du hippie qui se rappelait déjà du bon temps qu'il vivait pendant qu'il le vivait. Hein, c'était déjà le revival du revival qui arrivait, quoi. C'était la bonne époque, hein, ce qu'on entend aujourd'hui, tous mes sexagénaires trouvent qu'avant c'était mieux. Ben non, moi je trouvais pas. Enfin, je trouve toujours pas. Je trouve qu'aujourd'hui c'est mieux. Donc ce beat lié à la défonce aussi, hein, donc à une ivresse exceptionnelle, au LSD, au shit, ne me satisfaisait pas non plus. Je trouvais que c'était en effet des ivresses intéressantes, des expériences, comme on disait, hein, intéressantes, les expériences poétiques, les meetings, les happenings poétiques. Amsterdam était génial, franchement, ça durait toute une nuit jusqu'à épuisement. On disait, on éructait, c'était de la poésie sonore, c'était la poésie vivante, la poésie dite, pas la poésie écrite. Il fallait que ce soit physique. Et donc cette poésie-là me parlait, me touchait. Mais du lendemain de cuite ou d'ivresse, de revenir en arrière, de dire « tu te rappelles ?» Ben non, je ne me rappelle de plus rien parce que j'étais défoncé comme les poètes. Donc c'était une ivresse relativement évanescente, quoi, relativement...
Dionysiaque,
exactement. C'était une ivresse momentanée, oui. D'un jour, on était Dieu d'un jour. Hein, Warhol, après, l'a institutionnalisé. Mais donc cette poésie-là, mais ici, dans la maison de la poésie, quand je vois tous ces bouquins, qui a lu le dixième de ces bouquins? D'ailleurs, Olivier Chaulançon de la maison de la poésie, il dit oui, c'est une bibliothèque inerte, c'est une bibliothèque qui ne vit pas.
Mais Dick Engarn, on parle de poésie en langue anglaise, en langue française. Mmh. Avec quelle poésie est-ce que vous commencez? Parce que j'imagine que vous nous avez parlé d'Amsterdam. Amsterdam, j'imagine que c'est aussi la poésie flamande que vous entendez.
Oui, il y avait pas mal d'anglicisme. C'est un Français un jour à Rotterdam qui m'a dit « La France est le pays du verbe et la Hollande, c'est le pays de la lumière. » Donc, d'ailleurs, un peu depuis Jack Lang, tout est culture ou tout est poésie. On peut parler de la poésie d'un ciel. En tout cas, la Hollande n'est pas connue pour ses poètes. Il y a Vondel, le Vondelpark à Amsterdam, mais qui est d'ailleurs un lieu de joute verbale. Aujourd'hui, Vondelpark. Mais non, je ne peux pas dire que la poésie hollandaise... Enfin, ce qui me reste en fait de la poésie hollandaise, c'est les sons. C'est zee. On ne dit pas la mer, c'est un peu fermé comme son. Zee, on voit l'horizon, enfin, on voit au-delà de l'horizon, zee. Hein, c'est long, donc ces syllabes, ces grands O, ces grands E, ces grands I, et même les ré, le son de la langue hollandaise permet de passer à travers le vent. C'est lapidaire, c'est guttural, c'est des sons longs ou alors des sons assez ciselés. Et donc la langue hollandaise, on va dire, m'a accompagné comme son. C'est une poésie sonore, plus sonore que poésie.
Et j'imagine que vous êtes sensible, puisque vous parlez un peu l'arabe aussi, Dick Annegarn.
En arabe.
Voilà, par exemple.
Ça veut dire voleur en berbère.
Par exemple, le mot Dieu, il est très court quand on le dit en français, tandis que Allah, ça peut être un cri.
C'est pareil, ça va au-delà de l'horizon. D'ailleurs, la poésie arabe est souvent très religieuse, mais pas religieuse dans le sens avec un barbu. Bon, non, Dieu est un tout. Quand on remplace Allah partout, on comprend beaucoup mieux. Inch'Allah, ça ne veut pas dire grâce au barbu qui, dans sa boule de cristal, va nous assurer notre avenir. Non, Inch'Allah, c'est si tout va bien, donc jamais. Donc c'est une poésie de l'incertitude, contrairement au dogme du Dieu qui décide. Hein, donc Allah, oui, dit déjà un peu ça, on prolonge dans le temps et on verra bien. On se voue à Allah.
Vous parlez d'incertitude, Dick Engarn, je voudrais revenir à Rimbaud, parce que j'ai une incertitude.
Abdallah Rimbaud, il signait à Rimbaud là-bas, il avait un scellé et il mettait en dessous Abdallah pour le commerce, c'était bon. En Somalie, ça marchait mieux Abdallah Rimbaud qu'Arthur.
Vous évoquez la fin de sa vie, mais justement, oui, j'ai une incertitude sur Rimbaud, sur votre relation à Rimbaud. Mmh. Je n'arrive pas à savoir si c'est sa poésie, sa rythmique, la rythmique très particulière de Rimbaud, qui vous séduit, ou le fait que, puisque vous m'avez tout de suite parlé de la fin de sa vie, quand il part en Éthiopie et qu'il se fera marchand d'armes, ou le fait que Rimbaud ait d'abord écrit sa vie et qu'ensuite il ait choisi de la vivre. J'ai l'impression que c'est plus ça qui vous séduit chez lui, Dick Engarn.
Oui, il était fâché un peu avec la poésie. Il dit, j'ai pris la beauté sur mes genoux, je l'ai insulté. Et après, il est parti. D'ailleurs, il était à la Légion étrangère hollandaise, en Crète, où on le soupçonne d'avoir tué un homme. Il a été commerçant, il a été correspondant pour une revue de politique africaine, une sorte de National Geographic français. Donc c'était un chroniqueur assez froid, assez misanthrope d'ailleurs, dans la deuxième partie de sa vie. Autant dans la première partie de sa vie, il aimait, il épousait tous les poètes et toutes les nuits des villes d'Europe, toutes les causes aussi, puisqu'il a été à Amiens pendant la Commune. Il a balancé des pavés. Enfin, autant il était mobile et rageur et musical et poète, autant sa deuxième partie, c'est pour ça que je peux pas dire que je l'aimais. Dans la deuxième partie de sa vie, dans sa vie somalienne, mais en même temps, j'ai lu ses dernières lettres. Sa dernière lettre où il dit une dent, c'est marrant parce que c'est presque sumérien. Il fait le catalogue de ce qu'il voudrait qu'on monte à bord avec lui, où il écrit au directeur des affaires maritimes de Marseille, j'arrive, hein, comme dirait Brel aussi, hein, j'arrive pour mon dernier voyage, pour le dernier grand saut, quoi. Hein, et donc cette partie-là, oui, elle est vertigineuse.
Dick Engarn, je voudrais revenir encore une fois sur le lieu que vous avez choisi pour cette rencontre, la Maison de la Poésie. Vous le précisiez, à l'origine, quand elle a été créée en 83, ça se trouvait au Forum des Halles. Mmh. Et puis, elle a déménagé ensuite en 95, elle s'est installée ici.
C'était un forum en soi, c'était voilà. Une espèce de maison ronde. Et le cercle dans le monde poétique arabe est très important. La Helka, le forum, qu'est-ce que c'est beau. C'est grec, c'est méditerranéen, c'est un lieu de rencontre qui n'est pas oppositionnel. On fait tous partie d'un cercle littéraire, cercle, en tout cas, cette maison de la poésie. C'est vrai que j'étais étonné de me trouver dans une impasse, ici.
Parce qu'ici, on est, alors, vous dites impasse, mais on est dans un petit théâtre, le théâtre oui. Molière, on n'est pas loin du centre Pompidou. Un lieu accueillant.
Et le forum, il est où ?
Voilà. Il y a une grande piazza qui peut vous accueillir, où tout le monde peut se retrouver. Ouais. Et elle est en pente, comme en Italie, comme à Sienne. Oui. C'est un lieu qui vous attire.
Ah ben, j'ai dit du Rimbaud, ici, sur la place des Beaubourgs, avec des empereurs, des régiments, des colons, des peuples. Ah, c'est sur la poubelle du coin de la place Beaubourg, avec Agui Guémouna, je faisais le harangue ici, sur la place Beaubourg, en disant du Rimbaud. Oui.
Alors ce lieu, en tout cas, à son origine et même après son déménagement, la Maison de la Poésie, il est intimement lié à une personnalité. D'ailleurs, la salle qui se trouve juste à côté porte son nom. C'est Pierre Segers, poète, résistant français, surtout éditeur. Il avait créé en 1944 la collection Poètes d'aujourd'hui. Il était proche d'Aragon, de Paul Éluard, de René Char, et puis ouvert à la poésie vraiment du monde entier, parce qu'il éditera Brecht, il sera le premier en France à éditer Fernando Pessoa, de la poésie chinoise.
Attila Joseph.
Exactement. Je peux même aller jusqu'aux poèmes esquimaux collectionnés par Paul-Émile Victor. Et il y a autre chose, parce que c'est vraiment une œuvre importante que celle de Pierre Segers, mais il y a aussi la place de la chanson. Vous savez qu'il en avait écrite, Dick Engarn ?
Ah, Pierre Segers, non. Je savais pas que...
Il y a le voyou et la voyelle qui a été chanté par Juliette Gréco.
D'accord.
Voilà, et puis il va aussi, Pierre Segers, faire entrer la chanson dans la collection Poète d'aujourd'hui avec plusieurs numéros qui seront consacrés à Léo Ferré, à Brassens.
À Dick Engarn.
En effet.
J'ai un exemplaire dans Poète d'aujourd'hui, je crois.
Et ça a pu faire débat pendant un temps, parce que certains poètes trouvaient que peut-être la chanson n'avait pas sa place exactement au même endroit que la poésie. Et cette question, elle a été reposée au moment où le prix Nobel de littérature a été attribué à Bob Dylan. Comment est-ce que vous avez compris ce geste-là, vous, Dick Engarn ?
C'est des lettres de noblesse qu'on donne à un art mineur. Et c'est peut-être aussi, le prix Nobel à Dylan est aussi un prix Nobel à tous ces chanteurs ou poètes ou songwriters anonymes qui ont fait la grande somme, le grand répertoire des chansons sans auteur. Des chansons sans prétention, j'allais dire.
Ah, vous dirais-je maman ?
Hein ? C'est quoi, c'est une chanson ?
Oui, ah, vous dirais-je maman ? ce qui cause mon tourment. Maman veut que je raisonne comme une grande personne. Mais je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Mozart a instrumenté cette mélodie.
Mais c'est un thème sans auteur connu. Vous pouvez me dire quel est l'auteur ?
Bien sûr que non.
Donc il n'aura jamais le prix de Nobel, cet auteur.
Jamais.
Il vous habite, il vous accompagne, il nous accompagne, il est transmis. Et il est peut-être probablement écrit, mais il vit à cause de son côté sonore. Les mots, c'est télescope. Les mots ont une durée qui fait que la phrase reste, la phrase est transmise, la phrase est sonore, est une mélodie, est une musique en soi.
Alors comment comprendre Dick Engarn, qui peut avoir, il y a presque une forme de confusion. Bon, on peut se réjouir que Bob Dylan ait eu le prix Nobel de littérature, effectivement c'est une forme de reconnaissance, et en même temps c'est une forme d'ignorance, c'est ignorer que c'est un autre art que d'écrire des paroles de chansons, et que l'art d'écrire de la poésie, que d'écrire des textes qui sont destinés à être lus, ou au mieux déclamés, mais en tout cas pas chantés, c'est autre chose.
Le vers libre a été beaucoup pratiqué, en effet, dans les années dont on parlait de la Beat Generation. C'est pas, il y a pas de rime, il y a à la limite pas de durée non plus. Je veux dire, c'est infini, c'est l'écriture automatique, c'est le stream of consciousness, c'est la plume directement en relation avec ses pensées. Ulysse, une journée d'un Irlandais, ça peut faire un livre, quoi, une journée, ça peut faire un livre, Ulysse.
Ulysse de Joyce.
Hein, pour dire que la poésie libre, le vers libre, en effet, n'a pas de rapport direct avec la poésie sous contrainte. La chanson, c'est de la poésie sous contrainte. La contrainte, c'est la rime, c'est la durée, c'est la métrique.
Et la rime, c'est si vous voulez, il y a beaucoup de chanteurs qui ne riment pas.
Oui, mais comment dire ? En opéra, je suis en train de préparer un opéra.
Ah.
Bon. Mais je suis en train de comprendre que il y a le chant et puis il y a les dialogues chantés. Et le dialogue a une valeur théâtrale, n'a pas une valeur rythmique, métrique. Mais je vous conseille la poésie universelle, une somme qui a été publiée par Gallimard UNESCO, de toutes les poésies lyriques, épiques, amoureuses du monde. Et dans l'introduction de ce poésie universelle, on me dit que la rime et la métrique permettent un texte de ne pas être oublié. Et en effet, il n'y a pas que la rime et la métrique. Par exemple, dans le monde berbère et arabe, avant de dire bonjour, on nomme les gens qu'on connaît en commun. Avec une musique qui va avec. Fatima, ah Fatima, oui, bon, donc dans la façon de dire ah Fatima, oui, c'est oui, celle qui est partie avec un autre, bon, donc il y a la musique dans les noms avec l'adjectif, la somme des noms qui désignent qu'on connaît le même village ou qu'on connaît les mêmes personnes, qui est un moyen mémotechnique de se reconnaître, donc qui est le début d'une chanson, qui est le début. Donc en effet, c'est une autre façon de styliser les mots à ce qu'ils deviennent. Avant les Sumériens, on parlait. Ça fait 350 000 ans qu'on se parle, qu'on se chante, qu'on se compte, qu'on se raconte, qu'on discourt, qu'on se proverbe, qu'on utilise tous les moyens de la langue non écrite pour transmettre une mémoire culturelle, une mémoire religieuse, une mémoire tout court. Donc, l'organisation de la parole fait partie de la mémoire des illettrés. En tout cas, de ceux qui ne savent pas lire. Et je dis bien, c'est 350 000 ans que l'oraliture, donc la somme des expressions orales, existe et fait partie de la culture de l'humanité. Et ça fait que 5 000 ans qu'on écrit. Donc le poème simplement écrit, comme un état d'âme, un témoignage artistique, est une fraction de cette littérature. Que le chant, la chanson, la litanie, la salutation, l'homélie transmettaient. Et moi je suis plutôt en liaison avec cette partie de la littérature-là, une littérature sonore.
Mais Dick Engarn, si à l'évidence vous êtes en lien avec cette oralité, on aura l'occasion d'y revenir, c'est vraiment très important dans votre parcours, Il y a aussi quelque chose de l'écrit. Quand vous enregistrez des chansons, vous figez un texte et vous l'avez déjà écrit avant. Et souvent, avant de produire une chanson, il faut la travailler, il faut...
Non, il faut d'abord la chanter et l'écrire après.
Ah.
Ça, c'est un secret que je confie à tous ceux qui veulent écrire une chanson. Chantez d'abord. Parce que ni Macintosh, ni Word vous donnent la qualité de la mémorabilité. Qu'est-ce qui reste ? Salade de fruits, joli, joli. C'est même pas une rime. Fruits, joli, c'est pas une rime. Mais ça sonne. Donc je vais l'écrire une fois que ça me plaît en son. Et pour que ça me plaise en son, il faut que je l'ai oublié, puis que ça revienne. Et que c'est pas la signification, c'est même pas le nombre de pieds. En effet, il manque. Là, j'ai repris au répertoire de bémol et de dièse. Alors il y a le vent il entre dans une maison de poète, le vent il rentre. Alors, après il pleut. Eh ben le vent c'est plus long, donc le fait qu'il manque une syllabe c'est pas grave. Le silence après le vent donne de l'espace au vent, au mot vent qui est un espace avant, derrière, ça permet au vent de respirer. Quand il pleut, c'est déjà plus fractionné. La pluie, les gouttes, les plis, il faut qu'on l'entende déjà un peu. Le bruit de la pluie fait partie du poème. Et après, il neige, et neige, dans le mot neige, il y a un peu de douceur, ça atterrit en douceur, je. Donc, bon, ça passe d'abord par la mémoire, ça passe d'abord par le son, avant d'atteindre le papier. C'est pas en écrivant, je sais pas moi, l'eau glacée sous forme cristalloforme, bon, ça fera jamais une chanson, on s'en fout, que c'est de l'eau gelée, mais neige, il y a un son qui donne le son de la neige qui tombe par terre, neige. Bon, ben, ça, je l'ai utilisé plusieurs fois, neige, c'est un très beau mot, pluie aussi, parce que dans pluie, il y a de la pluie. Et ça, c'est que le son qui me le donne, c'est pas l'écriture.
Alors, je vais reposer ma question différemment, parce que vous n'écrivez pas que pour vous-même, Dick Angarn. Il vous arrive aussi d'écrire des chansons pour Raphaël, pour Nosfell, pour Calogero, voilà, des chanteurs qui viennent d'univers très différents du vôtre. Je crois même que vous aviez essayé d'écrire un moment pour Johnny.
J'ai écrit pour Johnny.
Ah.
Un enfant au matin, c'est une espèce de Johnny qui va au ciel, il rencontre pas Saint-Pierre, il rencontre un enfant. Bon, c'est un Johnny. Il fallait pas parler de Johnny vieux, parce que Johnny il vieillit jamais. Il fallait parler d'un Johnny éternel. Ben, je l'ai envoyé au paradis et je l'ai fait rencontrer un enfant. Bon, il a pas voulu chanter parce que il a peut-être pas envie de rester sur terre non plus. Mais bon, en même temps, Johnny, oui, c'est un. Il a chanté Macbeth. Il a chanté Shakespeare. C'est un artiste wagnérien. Il renverse des océans avec sa voix. Je veux dire. Donc en effet. C'est des chanteurs qui me donnent envie. Je est un autre, comme dirait Rimbaud. Hein, donc, c'est du théâtre pour moi. La chanson est du théâtre. Bowie, il résiste beaucoup mieux à la mémoire probablement que Prince. Parce que il a joué plusieurs rôles. C'est du théâtre. Aladdin Sane, Dory, je ne m'appelle plus, enfin.
Hunky Dory.
Mais
Dick Angarn, vous avez donc écrit pour d'autres. J'imagine que c'est quand on écrit pour quelqu'un d'autre, on peut se mettre aussi un peu sur le papier, pas faire que travailler à partir des sons. Et par exemple, je vais prendre un chanteur qui n'est pas vous. Thomas Fersen, un chanteur très connu, vient lui demander de lui écrire une chanson. Il lui écrit et le chanteur accepte la chanson avant de la refuser en lui disant « Écoute, tu as écrit champignon, je ne peux pas chanter ce mot-là.
» Bah, on dit une mise en bouche, quoi. Je veux dire... Une parole, enfin on dit ça à propos des lectures, mais la mise en bouche, oui, c'est il y a des sons qui vont bien à certains chanteurs et pas à d'autres, donc là on est dans la signature, on va dire, on n'est pas dans la chanson populaire vraiment, on est dans la chanson d'auteur, on essaye de d'ailleurs quand j'ai commencé dans ce métier, on parlait de créer une chanson qui n'était pas nécessairement l'écrire, qui était de la donner pour la première fois, qui était de l'essayer pour la première fois en public. On créait une chanson comme Piaf pouvait chanter du Moustaki, donc elle a crié « Allez, venez Milord » au théâtre, je sais pas, bon, dans un théâtre ou à l'Olympia, elle criait la chanson parce que c'était la première fois qu'elle la chantait, d'accord ? Mais ce qui nous distingue, nous, auteurs, compositeurs, interprètes, des chansons du domaine public, c'est que, en effet, nous créons, nous mettons une empreinte, nous mettons une signature, je dis bien, une personnalité d'interprète qui domine la parole. Donc, en effet, un chanteur peut refuser une parole avec laquelle il n'est pas à l'aise. Maintenant, à la Clairefontaine, voilà le bon vent, ou les chansons du domaine public ont été tellement épurées, tellement modifiées au cours de leur transmission, que c'est des solutions idéales. Ça va à toutes les bouches, à la Clairefontaine. C'est des formules qui enchantent tous ceux qui les chantent. C'est la magie de la culture populaire, de la mémoire collective. C'est de garder seulement ce qui est disible, ce qui est chantable, ce qui est prononçable sans s'écorcher la bouche. Et moi, j'ai écrit des chansons que, par exemple, Velova est une chanson, je trouve qu'on manque de critique, nous, dans la chanson. Donc, je la fais moi-même. Velova est une chanson récente que j'ai écrite en une nuit. Il y en a d'autres que j'ai réussi. La Transformation aussi est une chanson que j'ai écrite en une nuit. C'est réussi. Parce que je me suis laissé aller à ce stream of consciousness, plus donc ce courant de la pensée, plus le courant des sons qui se télescopent. Velova est une tricherie. J'ai voulu faire des chansons que avec des V, donc virevolte, tout ça. Bon. Eh ben, je n'arrive pas à la chanter sans texte. Donc, elle est mal écrite. Pour moi. Pour moi, une bonne chanson, c'est une chanson qu'on peut chanter sans pense-bête, qui a sa vie propre, qui a sa vie immatérielle, qui nous permet de la mémoriser, la chanson. Donc, est-ce que je réponds Thomas Fersen, même s'il chantait bien la syllabe, peut-être moi, j'y arriverai pas, ben elle est mal écrite. Et je suis très fier de pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous, comme je suis très fier de il avait un tout petit zizi, un grand cul, Père Ubu, parce que c'est des monosyllabes, ça n'a aucune allure réellement littéraire, mais c'est des empreintes inoubliables. J'en suis très fier.
On en restera là pour aujourd'hui. Merci Dick Hanegarn.
J'espère que je vous ai pas fait peur.
On vous retrouve demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathieu Conquet avec Dick Hanegarn. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Hélène Langlois, réalisation Vincent Deck, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.